Bon week-end.
Le podcast.
Ravi de vous retrouver, Vinciane, comme chaque samedi et chaque dimanche. On parle éthologie et, comme annoncé hier, les animaux ont-ils un visage? Cette question fondamentale, on va la clôturer. Enfin, pas vraiment la clôturer, mais on ne peut pas non plus s'étendre sur cette question pendant des semaines. On y reviendra peut-être un jour. On était sur la citation et l'observation du philosophe Gilles Deleuze qui, finalement, parlait de visage en tant que gros plan. L'image affection, c'est comme ça qu'il appelait cela.
Oui, c'est-à-dire que Deleuze, c'est là qu'il stabilise, je trouve, de manière intéressante notre question. C'est que la question du visage, alors on se posait la question, est-ce qu'on peut l'attribuer aux animaux, dans quelles conditions, etc. Mais Deleuze, il va beaucoup plus loin. Il dit que le visage, finalement, c'est un code culturel, c'est une fabrication, c'est une manière d'envisager, en quelque sorte, et qu'on pouvait très bien, par exemple, créer un effet de visage, une visagéification, avec le gros plan d'une horloge dans un film. Il citait des exemples de films qui avaient réussi à créer des visages à des objets, et que c'était le gros plan qui créait un effet de visage. Et donc ça veut dire que le visage aux animaux, finalement, c'est peut-être une question qui interroge non pas les animaux, mais qui interroge
l'homme
et les codes, et pas l'homme en général, qui interroge des hommes qui ont créé des codes culturels qui fabriquent du visage, qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les cultures, ni de tous les moments dans l'histoire. Alors, pour instabiliser cette question, et en tout cas pour la reprendre là où elle devient très instable, je voudrais repartir des expérimentations qui avaient été faites, et dont je vous ai donné un bref aperçu, avec des moutons et des abeilles capables de reconnaître des visages humains. Et je voudrais préciser, à propos de ces expériences, on n'a pas assez insisté là-dessus, c'est qu'en fait ces abeilles et ces moutons sont confrontés à des images de visages d'humains en gros plan. Et on peut se demander, mais est-ce que finalement c'est pas un effet de visagéification plutôt qu'un visage auquel ces moutons et ces abeilles sont confrontés. Puisque, en fait, dans ce qui est donné à ces animaux, c'est toute une définition du visage qui est déjà impliquée, puisque on repose sur l'idée que le visage, c'est la singularité et l'unicité des traits dans un ensemble. On appelle ça une gestalt, une forme qui apparaît comme forme, et une mise en comparaison avec d'autres formes. Mais on pourrait faire une autre hypothèse avec cette histoire et compliquer un peu les choses. Finalement, est-ce que, d'une certaine manière, en se mettant les visages, ou en tout cas ce qu'ils pensent être des visages en gros plan, eh bien, est-ce que ce n'est pas ça qui induirait chez les animaux la possibilité de reconnaître? Ils n'ont pas laissé les visages sur des corps, par exemple. Donc c'est peut-être l'effet, d'une certaine manière, de découpe et de mise en gros plan qui permettrait à ces animaux de reconnaître ce qui nous intéresse, nous, et de comprendre ce qui nous intéresse. Je veux dire donc que la question n'est peut-être pas de lire des visages sur des animaux, mais de savoir à partir de quel moment un ensemble de signes, dans ce qui leur est demandé, fait visage. Alors reconnaître des photos, serait-il valable pour reconnaître un visage? Bien, rien n'est moins sûr si on pense par exemple que des pigeons sont capables de reconnaître des peintures et des styles comme ceux de Manet ou de Modigliani. Ils reconnaissent donc des configurations. On a fait des expériences avec les pigeons, ils sont récompensés en fonction de leur possibilité de reconnaître. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'un visage serait à ce moment-là une simple configuration? En fait, je crois que ces expériences sont très intéressantes, mais qu'elles négligent la dimension cruciale du visage, le fait que c'est une production culturelle. Un visage est perçu comme visage parce qu'une longue histoire, la nôtre, nous a conduit à associer aux traits de la figure des dimensions qui font qu'elle fait visage. Alors les animaux reconnaissent-ils nos visages? Ne peut pas vraiment recevoir de réponse claire. On peut penser qu'ils reconnaissent des traits qui font sens pour eux, mais pas nécessairement au sens du visage. On peut également penser qu'ils sont sensibles dans ces expériences à l'opération de visagéification. C'est ce que je tenais à souligner avec le gros plan. Et donc les animaux pourraient bien être auteurs de processus de visagéification, si je peux me permettre de compliquer un peu les choses, mais normalement maintenant qu'on a vu tout ce qu'on a vu, on doit être capable de suivre cette question. Cette hypothèse finalement ne contredit pas l'autre, mais elle rend compte de la situation expérimentale et des dimensions particulières d'une situation expérimentale. Les animaux qui y participent vont acquérir de nouveaux usages, des habitudes nouvelles, et l'intelligence et les compétences que nous mesurons chez ces animaux traduisent peut-être ou témoignent peut-être en fait d'une chose beaucoup plus intéressante, c'est qu'ils sont capables d'apprendre nos codes, nos habitudes, nos propres usages, et notre intérêt pour les visages.
C'est loin de l'image qu'on pouvait y avoir de l'animal instinctif, ça, ce que vous dites.
Non seulement de l'animal instinctif, mais ça s'éloigne aussi de ce que certains scientifiques pensent produire dans leurs expériences. Ils pensent révéler des compétences des animaux, alors qu'en fait, ces animaux manifestent le fait qu'ils les apprennent en laboratoire.
Les animaux apprennent-ils plus de l'homme ou les hommes apprennent-ils plus des animaux ?
Alors là, c'est une question tout à fait intéressante et je crois qu'on n'apprend pas tout à fait les mêmes choses.
Merci Vinciane et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. La semaine prochaine, vous revenez, on parlera évidemment de vos histoires, de vous auditeurs et auditrices, que vous nous envoyez vos histoires vraies d'animaux. Et puis on va changer de sujet. Le chien est tendance, Vinciane.
Alors le
en
chien
éthologie.
Est très 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 tendance en éthologie, c'est vraiment pour le moment, hein, ça dépend des endroits, mais en éthologie en tout cas le chien est tendance, le chat deviendrait tendance dans les zones urbaines au point de vue de la préférence que les propriétaires peuvent avoir. Et je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire la semaine prochaine. La question de la semaine prochaine est-ce que les chiens ont conscience d'eux-mêmes ? Mais vous aviez parfaitement raison, Jean-Philippe, que cette question illustre bien le fait que les éthologues, pour le moment, se passionnent pour les chiens.
Bon week-end.
Les samedis et dimanches de 6 à 8 heures sur la première.